On tweet, on buzz, on s'agite, on s'excite, penché sans interruption sous le robinet d'informations qui déverse à nos gosiers assoiffés notre dose d'émotions fortes. Serions-nous devenus des animaux baignants dans une culture dominée par l'affect et en proie à la manipulation médiatique et politique de nos émotions? Notre invité, le philosophe Pierre Lecausse, publie Le gouvernement des émotions chez Albin Michel. À ses côtés, le neurobiologiste Yves Agide, qui va nous éclairer sur le fonctionnement biologique de notre machine émotionnelle. C'est le dossier cet après-midi de La Tête au Carré et j'attends vos messages et vos questions dès maintenant sur franceinter.fr, également avec le mot-clé l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, le rapport de l'Autorité européenne pour la sécurité des aliments tombé hier et qui affirme que le bisphénol A ne présente pas de risque pour la santé des consommateurs. Un rapport qui surprend et qui scandalise. On en parle avec François Veilleret de Génération Future et Gérard Lasfargue de l'ANSES. On attend d'ailleurs vos messages courts dès maintenant sur Twitter. Violaine Ballet réalise cette Tête au Carré qui a été préparée par Lucie Sarfati, Axel Villard et Fanny Cohen-Moreau.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Un philosophe et un neurobiologiste, Pierre Lecausse et Yves Agide. Bonjour.
Bonjour
à tous les deux. Pierre Lecausse, qui est ce mufle affectif que vous décrivez comme le nouvel animal humain? C'est nous?
C'est le mot connecticus.
Ouais.
C'est quelqu'un qui vit, comme vous le disiez, en train de barboter dans un bain d'excitation émotionnelle avec des écrans un peu partout autour de lui, parfois même en train de faire ses SMS sur le trottoir. C'est nouveau.
Oui, un peu partout d'ailleurs maintenant, même en voiture en train de conduire. Excité donc partout et par rien, irritable, émotif, et donc né de la société du clic et du zap, pour vous citer à nouveau.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous a inspiré ce livre sur les émotions?
Disons que je suis philosophe de formation, donc ce qui m'intéresse, c'est de parvenir à la sagesse, à l'équilibre entre les dimensions de notre être que sont les émotions, mais aussi la raison. Et j'ai le sentiment que nous sommes les contemporains d'un phénomène d'excitation qui crée une sorte de captation émotionnelle et qui pourrait entraîner une perte d'équilibre au profit de la sensibilité au détriment de la rationalité.
Vous allez nous aider à redevenir stoïcien peut-être pendant cette heure de Tête au Carré?
J'espère.
Yves Agide, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un mufle affectif alors exactement?
Il se passe beaucoup de choses, en particulier les émotions sont se traduites dans le cerveau, y sont traitées et déterminent des actions. Et on commence à comprendre dans le cerveau quelles sont les routes qui conduisent ces émotions.
Et vous allez nous conduire justement tout à l'heure sur les routes de l'affect. Vous serez notre guide, au moins.
On va essayer.
Est-ce que l'émotion est en train de triompher partout? Et de quelle façon est-ce que nous sommes manipulés? C'est la question au cœur de ce dossier cet après-midi. Vos messages et vos témoignages en ce moment. À la une de la science aujourd'hui, le rapport de l'Autorité européenne pour la sécurité des aliments qui fait scandale au sujet du bisphénol A.
Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, le bisphénol, vous venez de le rappeler, a déjà été interdit par votre assemblée dans les biberons, dans les emballages alimentaires destinés aux enfants de moins de 3 ans et sera interdit au 1er janvier 2015 dans l'ensemble des contenants alimentaires grâce à la loi du 24 décembre 2012 votée à votre initiative par cette assemblée.
C'était Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, le 6 juin dernier à l'Assemblée nationale. Dans un rapport donc rendu hier, l'EFSA, l'Autorité européenne pour la sécurité alimentaire, indique que le bisphénol A ne présente pas de risque pour la santé des consommateurs, quel que soit leur âge, y compris pour les enfants à naître. Une conclusion qui fait bondir un grand nombre d'associations et de scientifiques en contredisant donc à la fois une grande partie de la littérature scientifique déjà publiée, mais également le dernier rapport de l'ANSES rendu en 2013 et qui évoquait des risques potentiels pour la santé. C'est donc à la une de la science aujourd'hui. Bonjour François Veilleret.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole de l'association Génération Future qui a réagi très fermement à ce rapport dès hier. Gérard Lasfargue, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous donc par téléphone. Vous êtes le directeur général adjoint de l'ANSES en charge des affaires scientifiques. François Veilleret, vous êtes scandalisé par ce rapport européen?
Scandalisé, alors pas vraiment surpris parce qu'une espèce de brouillon de ce rapport est paru déjà il y a quelques temps. Scandalisé, oui, parce que, si vous voulez, là, on a une dénégation de la réalité de l'effet du bisphénol A comme perturbateur endocrinien qui est absolument criante. Le bisphénol A, c'est un peu l'archétype du perturbateur endocrinien. C'est un produit qui est très connu. Il y a eu des centaines, plus de 1000 études scientifiques sur le sujet ces dernières années, dont à peu près 95% disent qu'il y a un risque. Malgré tout, l'EFSA arrive dans la dénégation de ce risque. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment elle arrive à nier ce risque, parce que notre agence nationale journal l'ANSES, à laquelle appartient M. Lasfargue, a, elle, il y a quelques années, dès 2011, puis 2013, vous l'avez dit, eu la grande sagesse d'aller voir du côté de l'ensemble de la littérature scientifique publiée pour avoir un panel d'études les plus larges possibles et pour prendre une décision qui soit vraiment inspirée par la science.
Ici, et l'EFSA n'a pas fait la même chose.
Non, l'EFSA classe et trie ses études en prenant des critères qui sont ce qu'on appelle les bonnes pratiques de laboratoire, des normes OCDE, qui n'ont rien à voir avec forcément la qualité de la science, qui sont d'ailleurs des normes qui ont été inventées par des toxicologues qui travaillaient pour BASF, donc pour l'industrie chimique, et qui permettent d'automatiquement trier ces études dans la catégorie des meilleures études disponibles. Et ce faisant, elles discréditent celles qui ne sont que, entre guillemets, des études universitaires. Et donc, ces études ne sont pas triées sur des critères réellement de qualité des études, mais sur des critères quasi automatiques d'application ou non de ces normes. Donc, on voit très bien que l'EFSA ne suit pas, disons, le souci de rigueur intellectuelle, de rigueur scientifique de notre agence nationale en France, à un a priori, depuis, ils n'ont pas changé d'avis, ils ont considéré, ils continuent à considérer que le bisphénol ne pose pas de soucis. Alors, ce serait une histoire un peu longue à raconter, hein, dans un bouquin qu'on va publier avec Marine Jobert dans quelques mois, sur les perturbateurs endocriniens, on retrace cette affaire de l'EFSA et du bisphénol, parce que c'est tout à fait intéressant, on n'a pas le temps ici de développer, mais on considère qu'ici, on n'a pas à faire une décision qui est entièrement basée sur des éléments scientifiques, alors qu'en France, on a su remettre en cause la posture de départ, qui était la posture antérieure à 2011, pour aller voir l'ensemble de la littérature publiée. Aujourd'hui, c'est ce type d'attitude que, par exemple, on devrait avoir aussi sur les pesticides. Le règlement le prescrit d'ailleurs. Non, aujourd'hui, l'EFSA, l'autorité européenne, se contente d'un certain nombre d'études très restreintes et oublie 95% des études publiées par les universitaires.
Gérard Lasfargue, donc pour l'ANSES, vous comprenez cette sortie de route de l'EFSA ? Comment est-ce qu'on peut le qualifier, ce rapport et ses conclusions ?
Écoutez, alors il est vrai qu'il y a un certain nombre de divergences entre les deux agences sur notamment la méthode, les méthodes de l'expertise, donc à la fois la sélection des études, mais aussi l'approche en évaluation des risques qui n'est pas la même. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un certain nombre de points de divergence. Ce que je voudrais souligner quand même, c'est qu'il y a eu des échanges très très importants entre les experts et les scientifiques des deux agences suite à la publication du draft justement de...
Et vous avez même des experts communs entre les deux agences, hein ?
Alors, il y a des experts qui travaillent pour l'ANSES, dont certains ont pu être dans le panel scientifique de l'EFSA, effectivement. En tout cas, le fait d'avoir discuté beaucoup entre les deux agences, déjà, a conduit l'EFSA à diminuer donc ce qu'elle appelle la dose journalière tolérée de bisphénol A, ce qui n'était pas forcément évident au départ.
Alors la nouvelle dose journalière justement tolérée par l'EFSA, par ce rapport, est 1600 fois plus haute que celle de l'ANSES en 2013. C'est quand même hallucinant, alors, non ?
Oui, alors l'ANSES, le but de l'expertise de l'ANSES, ce n'était pas d'établir une dose journalière tolérée. On a donné des repères toxicologiques par rapport à un certain nombre d'effets du bisphénol A, dont l'effet notamment sur la glande mammaire. Voilà, nous clairement, on maintient le point de vue qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire que on confirmait des effets donc du bisphénol A, en particulier pour la femme enceinte, au regard des risques potentiels pour l'enfant à naître, des effets sur la glande mammaire, et donc la nécessité de réduire les expositions au bisphénol A. Alors il y avait un certain nombre d'incertitudes qui ont été prises en compte dans l'expertise et dans le niveau de confiance qu'on peut accorder aux différentes études. Oui. Donc nous, on ne regarde pas si les études sont bonnes pratiques de laboratoire ou pas bonnes pratiques de laboratoire. Ce qu'on regarde, c'est la qualité scientifique. Et notre but, c'est effectivement de dire très clairement, de façon très transparente, quelles études on retient pour évaluer les risques, quelles sont les études pivots pour évaluer les doses donc journalières tolérées qui peuvent être retenues, et quels sont les critères de sélection des études. Et on publie même ces critères et ces grilles d'analyse pour montrer comment on a travaillé. Voilà, le but, c'est vraiment l'excellence scientifique et la transparence à la fois.
Alors, François Bayrette, justement, Ségolène Royal dénonçait ce matin le probable poids des lobbies, hein, pour essayer d'expliquer, en tout cas, cette conclusion du rapport de l'EFSA.
Je suis tout à fait d'accord avec elle. Écoutez, en ce moment, il suffit d'examiner les positions de l'EFSA sur toutes les questions relatives aux perturbateurs endocriniens. Sur le dossier des pesticides perturbateurs endocriniens, la position de l'EFSA est exactement la même que celle de l'industrie. Bien qu'un règlement ait été voté en 2009, qui prévoit qu'on exclut a priori les pesticides perturbateurs endocriniens uniquement sur leur qualité intrinsèque, l'EFSA est en faveur du retour de l'évaluation du risque, prend des critères comme la puissance des perturbateurs endocriniens, enfin des choses un peu techniques, mais qui sont des critères uniquement défendus par l'industrie. Donc nous, on est très surpris que ce soit à ce niveau-là, et on pose l'hypothèse d'un manque d'indépendance, effectivement, puisqu'on n'est pas dans un intermédiaire entre les positions des uns et des autres.
On a Pierre Lecaux qui est là, vraiment c'est le hasard de l'actualité, mais ça tombe très bien, puisque vous présidez le comité de déontologie de prévention des conflits d'intérêts, justement, à l'ANSES. Alors ?
Il faut chercher, effectivement, l'origine biais cognitif, effectivement, si les experts qui ont été sélectionnés ont des actions dans des groupes industriels ou sont leaders d'opinion ou consultants auprès de grandes firmes, et il faut le sanctionner. Et je crois qu'au cours des années qui viennent, ça va être l'un des enjeux majeurs pour l'Europe, c'est-à-dire arriver à appliquer des règles de déontologie, l'impartialité, l'indépendance, la pluralité.
C'est le même discours qu'on tient depuis des années et des années, et il y a toujours justement ces problèmes de conflits d'intérêts au sein des agences.
Oui, ça prouve que les lobbies sont effectivement très puissants et que nous avons du travail.
Magali sur franceinter.fr, on ne nous prendrait pas pour des imbéciles. Cette dernière annonce du jour sur l'innocuité du BPA ressemble à une action des lobbies du plastique, mais je m'arrête là car je sens qu'on va bientôt me traiter de conspirationniste. Et puis Benoît nous dit, rappelons que l'Union européenne avait, suite à la découverte d'huile frelatée largement diffusée, considéré l'huile de vidange non dangereuse. François Veyrel, voilà quelques messages des auditeurs.
Oui, il faut signaler pour conclure. Ce qui est positif, c'est que au niveau des comités scientifiques d'experts de l'ANSES, il y a eu un peu entre guillemets de ménage de fait par rapport à certains experts qui étaient en conflit d'intérêts. Mm-hmm. Et je pense qu'au niveau de l'EFSA, il y a une démarche similaire à entreprendre. Alors, il y a l'indépendance des experts eux-mêmes, et après ça, il y a les a priori de l'agence en tant que structure politique également. On sent très bien que si en France on a une volonté réelle d'indépendance de l'ANSES, c'est peut-être pas le cas au niveau de l'EFSA, où on les sent très influencés par les problématiques politiques communautaires.
Alors c'est intéressant, et pour conclure justement Axel, puisque vous avez joint ce matin un des experts de l'EFSA, donc l'agence européenne.
Il s'appelle Jean-Pierre Cravedi, il est toxicologue alimentaire à l'INRA à Toulouse, et il a la particularité d'avoir travaillé à la fois sur le rapport de l'EFSA et celui de l'ANSES. Voici ce qu'il répond quand on lui parle de pression.
J'ai travaillé avec l'ANSES et j'ai travaillé avec l'EFSA dans les panels dans lesquels j'ai pu travailler ou les groupes de travail dans lesquels j'ai pu travailler. Je n'ai jamais ressenti un quelconque lobbying ou une quelconque pression du monde industriel sur ces sujets-là. Donc voilà, ça existe peut-être dans d'autres domaines ou dans des groupes de travail auxquels je n'ai pas participé, mais par rapport à ma propre expérience, je n'ai pas eu à vivre de conflits d'intérêts sur les sujets d'expertise auxquels j'ai été confronté.
Voilà, et à peu près tout le monde lève les yeux au ciel dans ce studio, Pierre Lecaux en particulier.
Oui, c'est-à-dire que c'est toujours les autres qui sont influencés. Il y a cette illusion égocentrique de croire que nous, brillamment, on échappe aux influences, mais il y a aussi l'inconscient. Et là, je laisse peut-être la place au...
Je préfère que tu t'exprimes toi-même.
Au neurobiologiste. Merci beaucoup. Merci Gérard Lasfargue pour votre intervention. Et merci également à vous, François Veyrette, pour être venu aujourd'hui dans le studio de la Tête au Carré. Allez, puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, n'augmentez pas trop la puissance de vos e-cigarettes. Des chercheurs de l'université de Portland aux États-Unis affirment que selon les conditions dans lesquelles il est chauffé pour créer la fumée, le liquide des e-cigarettes pourrait produire plus ou moins de formaldéhyde, une substance fortement cancérigène. Selon leurs conclusions, plus il est chaud et plus les concentrations mesurées de formaldéhyde dans la fumée sont élevées. Des nouvelles de l'espace, pour la première fois, deux astronautes vont passer un an dans la Station Spatiale Internationale. Le 27 mars, l'Américain Scott Kelly et le Russe Mikhail Kornienko vont rejoindre le complexe orbital de l'ISS. Leur mission se déroule dans le cadre d'une étude sur les effets physiologiques et psychologiques d'un long séjour dans l'espace, et l'objectif est de préparer les futures missions vers Mars. Et puis pour finir, une application pour aider les personnes aveugles dans leur quotidien. Elle s'appelle Be My Eyes et elle repose sur le bénévolat. Le principe est basé sur la visioconférence. Le non-voyant demande à un voyant qui est connecté à l'application de l'aider en lui demandant par exemple de décrire l'image envoyée par son téléphone. Un aveugle peut demander par exemple quelle est la date de péremption marquée sur un produit. Et actuellement, Be My Eyes est utilisé par plus de 6000 aveugles et 80 000 bénévoles voyants. L'application est disponible sur iPhone et prochainement sur Android. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo de présentation téléchargement de cette application gratuite sur notre page Facebook. Les émotions sont-elles en train de triompher au point de pervertir nos jugements de valeur? C'est le dossier de la Tête au Carré.
La Tête au Carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Le gouvernement des émotions et l'art de déjouer les manipulations. C'est donc un livre qui interpelle, qui sort aux éditions Albin Michel. Son auteur, le philosophe Pierre Lecoz, est notre invité avec le neurobiologiste Yves Agide. Vos messages arrivent déjà nombreux, vos témoignages, vos questions. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Pierre Lecoz, donc vous êtes professeur de philosophie. Vous dirigez le département des sciences humaines de la faculté de médecine de Marseille. Et à vos côtés, donc, le professeur Yves Agide, que vous connaissez bien, qui est neurologue et neurobiologiste. Vous êtes Yves Agide, membre fondateur de l'ICM. C'est l'Institut du cerveau et de la moelle épinière au sein du CHU Pitié-Salpêtrière. Et vous êtes membre du comité consultatif national d'éthique. On vous avait reçu il y a quelques mois d'ailleurs dans cette émission pour parler du subconscient. Pierre Lecoz, qu'est-ce qui donc au départ a véritablement guidé votre envie d'écrire? Vous le disiez un petit peu tout à l'heure. C'est un phénomène vraiment nouveau, ça, ces émotions collectives, hein.
Ce n'est pas en lui-même un phénomène totalement nouveau, puisque déjà il y a 2600 ans, Platon nous entretient de la manipulation des foules par ceux qu'il appelle des sophistes, c'est-à-dire des experts en art oratoire, qui seraient ce qu'on appellerait aujourd'hui des leaders d'opinion. Et il analyse la manière dont le peuple se laisse subjuguer, captivé par les beaux parleurs, et aussi cette sourde connivence, parce que tout n'est pas à mettre sur le compte de l'orateur. Il y a aussi l'acceptation passive, la séduction à laquelle se livre volontiers le peuple.
Oui. Et la manipulation des émotions, vous l'écrivez, s'est immiscée absolument partout, dans le champ médiatique en particulier. Vous citez une enquête au tout début du livre, justement, qui fait état d'une augmentation des faits divers de 73% dans les journaux télévisés en 10 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on est abreuvé d'informations qui frappent la sensibilité et qui, dites-vous, court-circuitent la rationalité.
Oui, c'est ça. Effectivement, les histoires, les anecdotes, les récits de vie, la télé-réalité, les polémiques, les scoops. Et on a le sentiment, même, je pense, par exemple, aux ouvrages aussi. Actuellement, il y a depuis quelques mois l'ex-compagne d'un président de la République, des ouvrages à grand succès qui ne sont plus sélectionnés en fonction de leur qualité stylistique, d'un contenu original, mais plus en fonction de leur charge polémique. Et j'ai l'impression qu'on est pris un peu pour des animaux affectifs, et comme si on était une espèce de poignée de moustiques attirés par la lumière des écrans.
Ouais, et les journalistes sont les animateurs de cette vaste kermesse, hein, apparemment, ouais. Puisque c'est eux que vous accusez, avec les politiques, hein, quand même. Il y a un bon petit partage entre les deux, responsable donc de cette inflation de l'émotion. Yves Agide, est-ce que les travaux, justement, sur les émotions sont importants aujourd'hui dans le domaine de la neurobiologie?
Énormément.
La demande forte aussi en ce sens.
La philosophie était essentiellement orientée sur la raison. Peu de philosophes, mais surtout au cours des derniers temps, des philosophes et des scientifiques ont insisté sur le problème des émotions. Pourquoi les scientifiques? Parce que quand vous avez une émotion, par exemple une peur ou une joie ou je sais pas, n'importe quelle émotion, dont je rappelle qu'il faut connaître la définition, c'est-à-dire c'est un affect, comme vous disiez, mais c'est un affect qui est momentané. C'est différent d'un sentiment, quelque chose de plus structurant. C'est différent de la passion qui est l'extrémité, qui, comme dit Comte-Sponville, le sentiment structure, la passion emporte. Mais si en parlant des émotions en général, on connaît l'ensemble des circuits qui permettent d'expliquer comment on réagit à une émotion. Je peux vous le dire brièvement, si vous voulez. Alors, voilà, vous avez une émotion. J'ai peur. Par exemple, il y a un lion qui apparaît à l'entrée de ce studio, ce qui est peu vraisemblable, il est vrai. J'aurais dû choisir un autre exemple. Mais à ce moment-là, vous voyez le lion. On le reconnaît. La rétine voit le lion, les informations sont transportées à l'arrière de votre cerveau, dans ce qu'on appelle le cortex occipital, qui intègre l'ensemble des informations visuelles. Puis ces informations visuelles vont se distribuer à l'ensemble du cerveau. Par exemple, dans les régions qui gèrent la mémoire, parce que vous allez vous rappeler, vous avez vu un lion. Ça va aller vers les structures qui vont faire que quand vous avez une émotion, vous allez pâlir ou rougir, vous allez avoir le cœur qui s'accélère, vous allez avoir des sueurs, etc. Vous allez avoir aussi des routes qui vont aller vers ce qu'on appelle l'amygdale. L'amygdale est une petite structure dans la région sous les tempes qui s'active quand on a des émotions très négatives. Et puis vous avez les émotions finissent par arriver à la partie antérieure du cerveau, le cortex frontal, ce qui est juste derrière votre front, qui est le chef d'orchestre de notre cerveau, qui va intégrer le tout et qui va déterminer votre comportement.
Ah, ça se balade pas mal quand même.
Comme s'il y a un lion qui arrive ici, je ne sais pas ce que vous allez faire. On va être bloqué d'abord et on va prendre la poudre d'escampette.
Sauf qu'on a un philosophe rationnel avec nous. Donc lui, il va prendre les choses en main. Je suis sûr, il va nous rassurer, Pierre Lecause, n'est-ce pas?
Écoutez,
qu'est-ce que vous ferez face à un lion, justement?
Ça, c'est mon cerveau qui va en décider. En fait, l'émotion, pour moi, on ne peut pas vraiment la maîtriser. Je ne suis pas d'accord pour dire qu'on peut gérer ses émotions à partir d'un libre arbitre ou d'une volonté qui pourrait contrôler nos affects. En réalité, ce que j'espère, c'est qu'une émotion de peur, mais pas trop envahissante, va me permettre d'avoir une conduite adaptée, parce que les émotions ne sont pas simplement des états subis, mais sont en même temps des réponses affectives qui nous permettent de nous adapter comme s'il y avait une intelligence du corps.
Ouais, et vous parlez-vous du règne des frissons du cœur, de la libre expression du moi, des effusions de sensiblerie. Vous avez des expressions qui sont très nombreuses d'ailleurs, hein, et qui expriment ce que la société vit aujourd'hui selon vous.
Oui, c'est-à-dire qu'on a besoin d'éprouver plusieurs fois dans la journée des émotions pour refaire jaillir la motivation. On ne pourrait pas vivre avec des sentiments un peu tièdes et qui nous font plonger dans une sorte de routine. Oui. On a besoin de sentir à nouveau la vie jaillir à travers ces ressources intérieures, cette force de connaissance qu'est l'émotion, cet appel à la réflexion aussi qu'est l'émotion. Donc moi, mon livre n'est pas un livre hostile aux émotions, ce n'est pas pour nous couper de nos émotions, mais pour peut-être retrouver un équilibre, pas toujours être sous perfusion émotionnelle, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'addiction collective aux émotions. On est frénétiquement en train de tapoter sur nos claviers ou à l'affût comme ça de nouvelles informations qui vont déclencher une dose d'adrénaline. C'est oui. cela qui m'inquiète.
Oui. Et ce qui vous inquiète aussi, c'est cette rapidité hein, qui s'est emparée des corps et des esprits, puisqu'on le voit bien avec les réseaux sociaux, avec le web, on est dans une urgence permanente où on a une obligation de réponse aussi très rapide à ceux qui nous interpellent ou ceux qui nous écrivent.
Oui, c'est le paradoxe d'une société de communication où finalement, plus ça communique et plus il y a de conflits, des erreurs d'appréciation, puisque ce qui est valorisé, effectivement, c'est l'impulsion, l'exhibition des émois, et nous laisser comme ça emporter par les premières émotions venues risque finalement de véhiculer une image de l'homme, que c'est qu'un homme, c'est jamais qu'un animal émotif, dépourvu de tout sens critique, excité par tout et par rien, et ça ne fait pas une vie.
Ouais. Yves Agide, il y a des concepts psychiatriques hein, qui ont beaucoup de succès aujourd'hui aussi, qui ont fait leur entrée dans le langage courant. Je pense notamment à ce terme de bipolaire. Le maniaco-dépressif a de beaux jours aussi devant lui. Hein.
Oui, c'est une maladie épouvantable. Hein. Je crois qu'il y en a 4 millions en Europe. Et c'est considérable. Pourquoi vous me posez la question ?
Parce que ça semble aussi illustrer, au fond, cette émotion collective et ces termes qui s'infiltrent aussi dans le langage. Ça dit quelque chose aussi.
Je voudrais répondre avant, aussi, parce qu'il y a des émotions qui sont très positives. Si je vois un beau tableau, si j'écoute une belle pièce de musique, j'ai une émotion qui est extrêmement favorable pour moi et pour l'ensemble de mon être. Pour répondre à votre question, le problème de la maniaco-dépressive ou de la dépression bipolaire, c'est la même chose. C'est-à-dire que les gens soient dans un état de joie extrême, ce qu'on appelle la manie, soit au contraire dans un état de grande dépression, et c'est une situation absolument épouvantable.
Sur des laps de temps parfois très courts. Hein.
Oui, mais parfois très long, ça peut durer des années. Et à ce moment-là, c'est endogène. C'est indépendant de l'expérience que vous avez de l'environnement. C'est vraiment une maladie qui, pour des raisons qui sont encore inconnues, vous rend extrêmement joyeux ou extrêmement déprimé. Quand même, une chose de favorable, c'est qu'on arrive quand même, dans la plupart des cas, à le traiter.
Ouais, Christophe demande sur Twitter, est-ce que seuls les animaux évolués ont des émotions?
Certainement pas. Vous avez déjà vu un serpent dans les herbes? Dès qu'il vous voit, il file. Vous avez vu un chat qui essaie d'attraper un oiseau, etc. Non, les émotions, au contraire, on pourrait même dire que autant nous avons une raison, parce que nous avons un cerveau très très développé, autant les animaux sont gérés pour beaucoup par les émotions, plus que nous probablement.
Pierre Lecoz.
Il y a quand même une spécificité humaine de l'émotion qui est la relation avec des valeurs. Par exemple, quand nous éprouvons de la compassion, cette expérience affective réveille en nous notre attachement à la valeur de l'hospitalité, de la sollicitude. Quand on éprouve de l'indignation, soudainement nous revient à l'esprit l'importance pour nous de l'égalité en dignité des personnes.
Absolument, ça c'est ce que révèlent les émotions justement. Ouais. On va en parler avec vous puisque Larry nous dit également ceci sur Twitter. L'absence d'émotion n'est-elle pas plus à craindre que son excès? On dit souvent que la colère est préférable au renoncement.
Oui, je crois que le sommeil des cœurs engendre des monstres et que effectivement, sans émotion, nous serions, tel Eichmann, décrit par Hannah Arendt, capables de tuer des millions de personnes. Rien n'est pire que l'anesthésie du cœur, je suis d'accord. February, keep on holding on, and I know it's sharp, and I know it's sharp. Not too far to carry this. Cause you could say this is not too far to carry this. Cause
the shade. It's just not too far to carry this. Cause you could save. It's just not too far to carry this. Cause you could save. It's just not too far to carry this. And it's times like these. And it's days like these. You could save. It's just not too far. And it's times like these. And this day is like, it's been a long time coming, but I'm falling short. Cause you can say this is not too far to have. It's been a long time coming, but I'm falling short. Cause you can say this is not too far to carry this. Not too far to carry this. Because you took something away from yourself. Come back to this route and not take your heart to higher self. Heart to higher self. Not too far to carry. Because you took something away from yourself. Come back to this route and take your heart. Cause you could save, it's just not too far to carry this.
Et c'est Lapsley avec Falling Short à l'instant sur France Inter. Le philosophe Pierre Lecauze, le neurologue et neurobiologiste Yves Agide sont mes invités cet après-midi autour d'un livre Le gouvernement des émotions, l'art de déjouer les manipulations. C'est chez Albin Michel, livre que vous signez Pierre Lecauze. Et puis Yves Agide, on vous avait reçu l'année dernière pour un autre livre sur le subconscient. D'ailleurs, Viron pose une question. Il se demande si les émotions sont dépendantes de notre subconscient et comment elles réagissent aux maladies neurodégénératives. Est-ce qu'elles jouent un rôle amplifié? Vous nous rappelez en deux mots ce qu'est le subconscient? Vous aviez une bonne métaphore pour nous l'expliquer, je me souviens.
Ah bon ? Oui. Bon, le subconscient, c'est tout ce qu'on fait de manière automatique.
Oui.
Quand on marche, quand on a des pensées automatiques. C'est présent en permanence. Alors effectivement, on a des émotions tout le temps. Des émotions brèves qui sont automatiques. Comme je disais tout à l'heure, vous voyez un lion, ben vous avez une émotion. Mais vous avez des émotions plus subtiles qui supposent beaucoup d'activités intellectuelles qui n'est plus totalement automatique. Par exemple, je parlais tout à l'heure de, si vous regardez un tableau, il va falloir l'interpréter, vous allez pouvoir développer, construire une émotion qui peut être négative, mais qui peut être heureusement positive. Donc je crois qu'il faut bien distinguer l'émotion momentanée, brève, subconsciente, de l'émotion qui est plus construite et qui est intellectualisée. Il n'y a pas d'intellect sans émotivité.
Et les émotions, la réaction par rapport aux maladies neurodégénératives pour donner une réponse à cette question.
Il y a des tas de maladies. L'exemple classique, tout le monde connaît la maladie d'Alzheimer. On dit oui, quand on a une maladie d'Alzheimer, on perd la mémoire. Bien sûr. Mais le drame de la maladie d'Alzheimer, ce sont les troubles émotionnels, ce sont les troubles psychiatriques. Quand on a des émotions anormal, involontaire, eh bien, c'est ce qu'on appelle la psychiatrie. Donc, des troubles du comportement, des agitations, des agressivités, des colères, des délires, un délire pauvre sur l'entourage, etc. C'est ça le vrai problème sur le long cours de la maladie d'Alzheimer.
Pierre Lecauze, Frédéric nous dit ceci, est-ce que le gouvernement des émotions n'est pas le terreau du totalitarisme ?
Oui, alors effectivement, quand les émotions sont majorées, la haine, voire la pitié, puisque Hannah Arendt disait qu'après la Révolution française, au moment de la terreur, Robespierre et ses alliés en appelaient à sauver le peuple, et cette pitié pour le peuple, disait-il, qui est affamé de la gloire, de défendre les damnés de la terre, pouvait se traduire par le massacre des aristocrates. Ce qui est insidieux, c'est que même les bonnes émotions, on a vu même récemment ce qu'on a appelé une expédition compassionnel, du néocolonialisme compassionnel où, au nom de l'amour pour des enfants soi-disant orphelins, une expédition, l'Arche de Zoé pour ne pas la nommer, est allée récupérer au détriment de toutes les lois internationales des enfants. Et on sait que la France a été dans des difficultés. C'est là qu'on voit vraiment que l'émotion, même la bonne émotion, l'indignation décuplée par la compassion peut nous entraîner dans des dérives.
Alors, ça révèle quoi nos émotions? Vous le disiez un petit peu tout à l'heure, vous écrivez, ça révèle ce que nous vivons, ce à quoi on tient, ce contre quoi on se bat également. Ça, c'est la vertu, ouais, au fond, de ces émotions.
Oui, exactement. Oui, il y a des émotions comme la crainte aussi qui nous alerte sur les risques d'une catastrophe. Si nous n'avons pas cette crainte, nous allons à une catastrophe. Il y a l'angoisse même. Je crois que l'angoisse peut être un révélateur d'un conflit entre des valeurs, oui, révèle des dilemmes.
Et au cœur de ces émotions, donc, cette exploitation médiatico-politique de nos émotions et la raison qui fait office de garde-fou. Enfin, c'est ce que vous souhaiteriez en tous les cas.
C'est-à-dire avoir effectivement des plages où nous pouvons analyser, parce que l'émotion en elle-même, elle est un appel à la réflexion, donc elle peut être fertilisée par des réflexions qui vont nous amener à même nous interroger sur les mécanismes à travers lesquels nous sommes manipulés. Par exemple, l'argument de la pente glissante. Si vous avez X aujourd'hui, alors vous aurez Y demain. Si vous autorisez ça, alors voilà ce qui se passera. L'utilisation de l'exemple, un exemple vraiment percutant et utilisé comme étant une preuve, mais à un exemple, on peut toujours opposer un contre-exemple.
Ouais, pourquoi la raison, justement, a du mal à se faire entendre aujourd'hui en particulier, alors, Pierre Decauze?
Ben, aujourd'hui, plus parce qu'effectivement, nous sommes dans une sorte d'écosystème technologique, ce que Régis Debré appellerait la technosphère, hein, c'est-à-dire beaucoup d'écrans, beaucoup de messages extérieurs, et du coup nous n'avons peut-être plus autant l'occasion de faire un retour introspectif sur les messages intérieurs, parce que pour moi, l'émotion est un message intérieur. Qu'est-ce que nous dit l'émotion? Et réapprendre peut-être à écouter nos propres émotions plutôt que de nous laisser dicter nos émotions par des stimulations externes qui sont des émotions un peu frustres, un peu binaires, j'aime ou j'aime pas, par exemple. Et moi, j'en appelle, et comme Yves Agide aussi, je crois, à retrouver, à réenchanter la sensibilité par l'art, par la culture, trouver d'autres espaces d'expression des émotions.
Christophe nous dit le meilleur moyen sur Twitter pour contrôler ses émotions, c'est prendre du recul, c'est l'éducation, c'est se cultiver.
Oui, ça permet de les sublimer, de les raffiner, je suis d'accord avec ça.
Yves Agide ?
Oui, on sait un peu comment ça se passe. Parce que quand vous avez toutes ces émotions, elles sont traitées au sein du cerveau dans des routes qu'on connaît, comme je le disais, à peu près. Mais si ces émotions dépassent un certain seuil, vous avez la raison qui se met en route. Et on sait où ça se passe. Le problème, c'est que les émotions peuvent déplacer. En un mot, la partie intérieure du cerveau, qui est notre chef d'orchestre, a une action inhibitrice sur toutes les structures qui gèrent ces émotions. Donc, parfois, malheureusement, ces structures rationalistes, rationnelles, sont dépassées. Mais en principe, c'est ce qu'on va appeler le sang-froid. Un homme bien équilibré peut contrôler ses émotions. Alors, évidemment, en fonction de l'environnement, parfois, la raison est dépassée à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective.
Ouais, vous parlez de l'indignation, Pierre Lecauze. Écoutons la voix de Stéphane Hessel, par exemple.
Je l'appellerais un appel, un manifeste, si on veut. On a raison aujourd'hui de s'indigner. Il y a des problèmes graves, il faut les connaître. Essayez d'abord de les détecter. Et une fois qu'on les a détectés, et une fois qu'on s'est indigné, comme je le réclame, il faut agir.
Indignez-vous, indignez-vous. Indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous.
Alors Pierre Lecauze, ce message de l'indignation qui a été reçu 5 sur 5, hein? Oui. Avec la voix de Stéphane Hessel. Oui. Qu'est-ce que ça dit justement de ce cadre, de ce champ des émotions?
D'abord, l'indignation a joué un rôle dans l'histoire de l'humanité très considérable, de transformation des mœurs. Petit à petit, on en est arrivé, grâce à l'indignation, à attribuer une valeur absolue à tout être humain. Donc là, je salue effectivement la force révolutionnaire de l'indignation.
C'est maintenant, l'émotion c'est... révolutionnaire par excellence.
C'est ça, hein, exactement. Ouais. Mais à présent, je voudrais dire aussi qu'il y a quelque chose de paradoxal à appeler à s'indigner, puisqu'une émotion, on la rencontre en nous-mêmes, on la subit, mais on ne peut pas la décréter. Et on peut aussi faire une indigestion d'indignation, parfois aussi, à s'indigner un peu à tort et à travers, et ouais, à perdre peut-être ouais, aussi mais la avait, saveur
avait,
de cette...
Ouais, mais il y avait quasiment une révélation au moment où Stéphane Hessel a appelé ouais, à l'indignation. C'est-à-dire qu'on a quasiment oublié ça, non? C'est peut-être pour ouais, ça aussi qu'autant de personnes ont répondu à son
oui,
appel.
Oui, on a peut-être oublié qu'effectivement, il faut qu'il y ait des ressources affectives pour nourrir la motivation et défendre des nobles causes, que ce ne sont pas seulement des beaux discours sur l'homme, sur ses droits, mais qu'il faut aussi, pour trouver la motivation, sentir la vie affective nous communiquer son énergie pour transformer le monde.
Oui, Yves Agide.
À force d'avoir des émotions fortes qui vous indignent, si elles se répètent, il finit par y avoir une tolérance. À ce moment-là, on finit par s'indigner pour peu de choses.
Oui.
Ou alors on ne s'indigne plus.
Et il y a l'effet contraire.
Pour des choses très importantes. C'est un risque. Et ça, on en connaît les mécanismes aussi, hein, sur le plan biochimique.
Allez, on se retrouve dans un instant. D'autres messages nombreux pour vous sur franceinter.fr. Les cigognes nénuphars, c'est joli ça comme titre, avec Forever Pavot sur France Inter.
La tête au carré sur France Inter.
Pierre Lecaus, philosophe et auteur de ce livre Le gouvernement des émotions chez Albin Michel, et le professeur Yves Agide avec L'homme subconscient, le cerveau et ses erreurs. Ça s'était paru il y a un an maintenant, une bonne année, aux éditions Robert Laffont. Beaucoup de messages pour vous sur franceinter.fr, sur Twitter. Jérémy nous dit ceci: pourriez-vous demander à votre invité de développer l'idée qu'il n'y a pas d'intellect sans émotion, qui veut répondre à cette question ? Yves Gide ?
Oui, je pense que c'est très très vrai. Quand je m'exprime, je peux le faire avec un sens à ce que je veux dire, c'est de l'intellect, mais en même temps je peux le dire de manière molle, mm-hmm. ou je peux le dire de manière joyeuse, etc., etc. Donc tout ce que je vais dire va s'exprimer d'ailleurs par du mouvement, par ma voix, avec le larynx, par mes gestes, par mon comportement, mais chaque fois, tout mon comportement va exprimer à la fois de l'intellect, ce que je veux dire, mais c'est toujours modulé par les émotions. Et on sait, dans le cerveau, comment ça se passe. C'est-à-dire que les circuits qui gèrent l'intellect, la rationalité, si vous voulez, le jugement, l'intelligence, sont jointifs avec les circuits qui gèrent les émotions et interactifs avec eux.
Ouais, c'est important, cause, parce que... c'est intéressant, hein,
oui,
parce que là, parfois, on a l'éclairage de la neurobiologie, oui, sur cette évocation.
Et rejoint tout à fait, oui, le discours du philosophe, parce qu'on voit parfois dans les débats une manière de dénigrer un adversaire en lui disant « mais vous êtes du côté des émotions, moi je fais, oui, entendre la voix de la raison ». C'est un des grands classiques de la joute oratoire. Or, en réalité, sur les sujets qu'on appelle justement des sujets sensibles, l'avortement, l'homoparentalité, la gestation pour autrui, l'euthanasie. Imaginez que vous n'ayez pas d'émotion sur ces sujets-là, mais vous ne sauriez même pas à quelle valeur vous êtes attaché. Il n'y a pas de rationalité pure.
Et justement, le jugement de valeur aussi, c'est l'écueil possible dans ce trop-plein d'émotions ou dans cette manipulation de nos émotions ?
Oui, je crois que, effectivement, quand on éprouve des émotions trop vives ou trop exclusives, on perd de vue la complexité. Dans mon livre, je parle justement de l'affaire du mariage pour tous. Hein. Mmh. Il est frappant de constater que... on a vu des gens s'indigner, mais pour des raisons exactement inverses. Hein, mais comment peut-on...
Il y avait toutes les indignations, d'ailleurs.
Il y avait toutes les indignations, ce qui prouve bien qu'on ne doit pas se laisser emporter par une seule émotion, mais il est bon d'en éprouver plusieurs pour qu'elles se pondèrent les unes les autres. Par exemple, si vous êtes en colère et que votre main se lève pour frapper, soudainement, la peur des conséquences de cet acte de brutalité va inhiber votre agression physique. Et on voit bien comment, finalement, la peur pondérer la colère, mais le respect aussi peut pondérer l'indignation qui en fait un peu trop. Et donc ce jeu des émotions qui se pondèrent les unes les autres permet d'arriver à un équilibre.
Oui. Alors justement, tiens, on va écouter, parce que ça c'est intéressant d'écouter la forme aussi d'un discours, l'émotion qu'il peut véhiculer, avec la garde des Sceaux, Christiane Taubira, justement, qui avait mis le feu aux poudres à l'occasion d'un débat à l'Assemblée nationale le 30 janvier 2013.
Puisque le mariage des homosexuels n'enlève strictement rien aux hétérosexuels, posons les mots sur des sentiments et des comportements. Et je dis que oui, il reste hypocrite de faire semblant de ne pas voir ces familles homoparentales et ces milliers d'enfants qui sont exposés au regard social réprobateur. Vous nous parlez des effets psychologiques sur les enfants, mais les effets psychologiques, ils sont d'abord sur le regard social, ils sont d'abord sur la discrimination, ils sont d'abord sur le rejet, ils sont d'abord sur le refus d'une citoyenneté. Alors oui, nous le refusons.
Allez.
Vous nous parlez de l'intime.
On se rassoit.
Pardon, monsieur le ministre. Sur l'intime, monsieur le ministre. Nous nous faisons le devoir de réfréner nos élans.
Allez,
de réfréner nos sympathies. De réfréner nos aversions. Parce que nous statuons en droit. Et il s'agit ici de droit et de liberté.
Merci.
Voilà, Yves Gide. Il y a quelque chose d'étonnant. C'est déjà rentré dans les annales, d'ailleurs, ce discours de Christiane Taubira.
C'est vraiment
sa
extraordinaire.
Forme, son espèce de tourbillon qui s'empare de toute l'Assemblée.
Ouais. Avec un individu qui s'indigne, ouais, et une salle qui s'enfuit. C'est comme des musiques qui rentrent en résonance de, ouais, plus en plus.
Absolument.
D'ailleurs, je pense que c'est ce qui se passe à l'échelle des peuples. C'est-à-dire qu'un petit nombre d'individus peuvent créer l'indignation on a connu ça, malheureusement, récemment.
Ouais. Pierre Lecauze.
Oui, non, c'est pour dire que l'homme politique se doit de trouver un compromis. Il doit arbitrer. entre deux légitimités. C'est ça qui est difficile.
L'émotion collective, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de ce qui s'est passé très très récemment, avec évidemment les attentats et surtout les rassemblements des Français.
Et on a vu d'ailleurs cette force aussi de l'indignation et de la compassion qui, même au-delà de nos frontières, a mobilisé à l'échelle internationale tous les peuples qui ont été émus. Et donc, c'est grâce à l'émotion d'indignation, la compassion, que nous retrouvons la valeur, la vigueur de ces émotions qui réveillent en nous notre attachement à des valeurs d'égalité des personnes, de liberté, de justice.
Oui, justement, Christophe sur Twitter nous dit Monsieur Valls a demandé une réflexion sur le rétablissement de la peine d'indignité nationale. Est-ce une réponse aux émotions des Français, justement, faire le cause ?
Moi, je me méfie des indignations un peu excessives. Mais je voudrais dire aussi que l'émotion peut nous jouer de mauvais tours et nous nous en rendons compte avec cette manière avec laquelle ceux qu'on appelle les cyberdjihadistes peuvent faire circuler comme une traînée de poudre à travers les réseaux sociaux des émotions comme la colère, la haine. Et donc, les émotions, il faut absolument les tempérer. Je ne suis pas pour la surenchère émotionnelle, parce que là, vraiment, on perd notre discernement.
Oui. Alors, là aussi, un point que vous abordez dans votre livre et qui nous intéresse évidemment dans le cadre de cette émission, c'est la diffusion de désinformation par les journalistes en particulier. En 2009, le comité d'éthique avait attiré l'attention justement sur cette responsabilité dans le domaine de l'information sanitaire en particulier. Là, on avait un bel exemple tout à l'heure avec le bisphénol A, la façon dont justement on peut délivrer ces informations au public. Là, il faut faire très très attention aussi, et on est exactement sur le plan émotionnel.
Oui, parce qu'on trouvera toujours un scientifique qui aime bien se mettre en évidence, se mettre en spectacle, et qui du coup va, pour se faire valoir lui-même, prendre une position un peu déconcertante. On a l'exemple d'un grand géologue qui s'était illustré sur le réchauffement climatique. Et c'est vrai que les médias adorent ces trublions qui déstabilisent les convictions. Mais je crois que ceux qui aiment la science, comme Yves Agide, ou la rationalité aussi, ont à cœur de ne pas céder à ce caprice narcissique qui fait que certains se mettent un petit peu en scène, alors qu'on sait bien que du point de vue de la science, il n'y a pas lieu de tout remettre en question.
Trois découvertes scientifiques sur quatre sont relativisées ou réfutées les années suivantes. Là aussi, c'est la sagesse à avoir face à l'information qu'on reçoit aussi.
C'est sûr que les scientifiques et les journalistes ne vivent pas dans la même temporalité. Une découverte scientifique, il faut 10 ans, effectivement, pour savoir si elle se confirme, si elle s'affirme. Ouais. Alors que le journaliste, lui, il veut faire un scoop, il veut un titre extraordinaire, la fabrication des bébés parfaits, un clone qui va surgir dans...
Et on voit avec le temps que souvent les informations tombent d'elles-mêmes.
Et bien sûr, d'ailleurs, il n'y a jamais eu un clone humain.
Il agit d'un...
Non, ce que je veux dire, c'est que la science, par définition, son objet est d'être mise en question. La science ne donne pas la vérité. Donc la science évolue dans le temps avec des théories qui interviennent les unes après les autres, dont certaines peuvent réfuter. Ce que vous disiez sur trois quarts, je crois que c'est de la réfutation scientifique qui n'est pas la même chose que la fraude. Il faut bien distinguer les deux, j'ai l'impression.
Ouais, et puis c'est effectivement le cours normal de la science aussi. Comment résister, Pierre Lecoz ? Comment raisonner précisément avec nos émotions ? Quelles ressources avons-nous justement face à ce tapage un petit peu que vous décrivez ?
Oui. Eh bien, il faut se mettre autour d'une table et nous avons des émotions de crainte, de compassion, d'indignation. Il faut que toutes les sensibilités puissent s'exprimer et puis qu'un président de séance puisse donner à chacun un temps de parole. Moi, je suis toujours un peu troublé par ces livres à grand succès, Ma vérité, Je vais vous révéler le cœur de l'État. Donc, tous ces gens qui gravitent autour du pouvoir et qui prétendent qu'ils ont vu, ils ont entendu. Je rappelle d'ailleurs que même du point de vue de la justice, un témoignage, bon, c'est intéressant, mais ce n'est pas une preuve. Et on voit se substituer au modèle de l'aveu, le modèle de la trace aujourd'hui. Avant, j'avoue que j'ai fait ceci. Ça, c'était le vécu qui était le critère. Puis il y a eu l'affaire d'Outreau, etc. Et maintenant, on est dans le modèle de la trace, c'est-à-dire on va essayer d'établir un faisceau de preuves. Quand vous bougez, vous laissez des traces d'ADN. Quand vous appelez, vous laissez un numéro de téléphone. Et il y a des écritures bancaires. Et tout ce faisceau de traces dira, ben voilà la vérité.
Et le temps de la réflexion aussi, il faut le préconiser plus que jamais.
Absolument. Hein, voilà, je trouve qu'en ce moment, on ne passe pas suffisamment de temps à contempler le ciel étoilé. Il y a une connivence avec la nature qu'il faut retrouver.
Contrôler le sang-froid, Yves Gide, par exemple. Hein.
Oui, mais le sang, quand on a un coup de sang, c'est d'avoir une grosse émotion. Et effectivement, le sang-froid, c'est le refroidir cette émotion. Et comme je le disais tout à l'heure, on sait par où ça passe. Parce qu'on a un chef d'orchestre qui est capable de gérer ça jusqu'à un certain point.
Merci infiniment à tous les deux. Pierre Lecauze, donc le gouvernement des émotions et l'art de déjouer les manipulations, c'est chez Albin Michel. Et puis Yves Agide, donc l'homme subconscient, le cerveau et ses erreurs. C'est un livre à découvrir aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup d'être venus nous en parler tous les deux cet après-midi dans le dossier de La Tête au Carré. Merci beaucoup aux éditeurs très nombreux à nous envoyer des messages. Vous pouvez d'ailleurs poursuivre en ce moment si vous souhaitez dialoguer ensemble sur le site de l'émission.